journal des sciences.
Et pour commencer, le premier sujet du jour, il y a quelques minutes à peine à Hambourg a été inauguré le laser européen X-FEL. C'est le laser électron libre et à rayon X le plus puissant du monde. 800 personnes assistaient à cette cérémonie très attendue puisque le projet lancé il y a plus de 8 ans est porté par 11 pays européens dont la France, Zoé.
Oui, il doit permettre des avancées notables dans la recherche de l'infiniment petit. C'est un projet monstre, ce laser X-FEL européen. Il a coûté peu ou prou 1,5 milliard d'euros aux 11 pays qui l'ont financé. En tête des bailleurs, on trouve évidemment l'Allemagne, suivie de près, c'est notable, par la Russie, avec 38% des fonds. Andrei Fursenko, le plus proche conseiller scientifique de président Poutine, fait partie des invités aujourd'hui à Hambourg d'ailleurs. Et l'enjeu est de taille, puisque ce laser est aujourd'hui la plus grande et la plus puissante source de rayons X fabriquée par l'homme. C'est en tout cas ce que nous disent ses concepteurs. Il doit tout simplement révolutionner l'étude du nanomonde. Alors les lasers à électrons libres sont apparus en 1977. Ils s'appuient sur un faisceau d'électrons à très haute énergie, et celui de Hambourg, il fait partie de la quatrième génération de X-FEL qui implique, et c'est important, un accélérateur linéaire et non un accélérateur en anneaux, comme les synchrotrons, c'était les lasers de troisième génération. Et celui-là, celui d'Hambourg, s'étend sur 3,5 km. Il est constitué par plusieurs tunnels. L'un d'entre eux s'enfonce jusqu'à 38 mètres dans le sol. Et c'est justement la taille de cette infrastructure qui lui confère ses qualités exceptionnelles, nous explique Anders Madsen, c'est le chef de l'équipe scientifique du X-FEL.
Le principe du laser à électrons libres est simple. Vous prenez des électrons et vous les accélérez jusqu'à ce qu'ils bougent presque aussi vite que la vitesse de la lumière. Cette phase d'accélération a lieu sur 2 km et l'électron finit par monter à de très hauts niveaux d'énergie. Juste après cela, on envoie ces électrons dans un appareil qu'on appelle onduleur. Et cet onduleur est équipé d'aimants qui obligent l'électron à slalomer de haut en bas, et ce sur plus de 10 km. L'électron se met donc à onduler, et en changeant de trajectoire sans cesse, l'électron finit par imiter la lumière. Et comme il monte à de très hauts niveaux d'énergie, la lumière qu'il produit n'est pas visible. Il produit des rayons X, et c'est ça la nouveauté. Le laser à électrons libres est déjà très utilisé pour générer des rayons ultra violets, des rayons infrarouges. Mais dès qu'on veut produire des rayons X, il faut des machines très grandes et très complexes. La nôtre est la plus longue au monde aujourd'hui. Et à la fin du parcours, on obtient donc des rayons X très courts et très intenses, avec la plus grande brillance moyenne au monde, et ce, grâce à la longueur exceptionnelle de notre onduleur.
Et donc la raison, Zoé, pour laquelle ce laser X-FEL représente un véritable bond en avant par rapport aux générations précédentes, c'est parce qu'il pourra notamment générer jusqu'à 27 000 flashs de rayons X par seconde.
Oui, et ce laser va fonctionner donc à la fois comme un super microscope et comme une super caméra, puisque les deux lasers X-FEL les plus récents sont ceux de l'université de Stanford aux États-Unis qui a été construit en 2009, et celui de Sakla, au Japon, qui l'a suivi de près. Et ils émettent respectivement 120 et 60 flashs par seconde, alors que le laser de Hambourg, lui, en émet, on l'a dit, 27 000 par seconde, c'est 200 fois plus, ce qui va permettre d'obtenir des images tout à fait nettes de phénomènes extrêmement rapides à l'échelle nanométrique, atomique, moléculaire, dont nous avons aujourd'hui des images plutôt floues, puisqu'il va véritablement fixer la dynamique d'un électron, d'une molécule, à l'écran, à l'échelle temporelle même où cet électron ou cette molécule bouge, ce qui peut véritablement bouleverser la recherche, nous explique toujours Anders Madsen, le directeur de recherche au X-FEL, dans beaucoup de disciplines.
That is the specificity of our machine. So we combine the very high resolution of X-rays.
C'est la spécificité de notre machine. On combine une très haute résolution de rayons X dans l'espace avec une très haute résolution temporelle. On va donc pouvoir observer de la chimie en temps réel. Qu'est-ce qu'il se passe vraiment lors d'une réaction chimique? Comment se forment les liens entre molécules? Comment ils se brisent, etc. On va pouvoir aussi observer la manière dont les électrons bougent sur certains matériaux et mieux comprendre un phénomène comme la supraconductivité, par exemple. Et en biologie, on va pouvoir observer la forme et le comportement de certaines molécules, comme les virus. Si on comprend comment un virus s'ouvre pour attaquer des cellules, on aura de meilleures chances de pouvoir le bloquer. Voir, c'est souvent comprendre. Et jusqu'ici, nous étions souvent obligés de cristalliser des molécules pour les observer. Mais certaines d'entre elles, qui sont très importantes, ont des formes ou des consistances si complexes qu'elles sont impossibles à cristalliser et donc à observer. Grâce à son intensité, X-FEL pourra permettre pour la première fois de regarder individuellement et de leur intégrité des molécules, comme les protéines membranaires par exemple, ce qui peut conduire à de vraies avancées en matière de design ou tout simplement dans la compréhension du corps humain.
Voilà, les attentes sont très grandes, vous l'aurez compris, ce qui explique que les chercheurs se battent déjà pour obtenir du temps de faisceau. Les premières première expérience commence dès la fin du mois, mais il s'agit pour le moment de friendly experiment, comme me disait Anders Madsen, puisque les chercheurs qui vont étrenner ce laser doivent s'attendre à quelques dysfonctionnements, puisque vu la taille, la complexité de la machine, il y a encore beaucoup de réglages nécessaires.
Une petite période de rodage. En bref, Zoé, on a découvert un titanosaure en Tanzanie.
Découverte importante, puisqu'on a retrouvé peu de titanosaures en Afrique. Celui-ci a été identifié grâce à des os qui ont été retrouvés à partir de 2002 en Tanzanie. Les paléontologues qui travaillent sur son squelette ont conclu qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce baptisée Shingopana songwensis, Shingopana qui veut dire long cou, beaucoup plus proche finalement des squelettes retrouvés en Amérique du Nord que de se retrouver en Afrique du Nord, ce qui suppose que les conditions climatiques de l'Afrique du Sud étaient sans doute plus proches de celles de l'Amérique du Nord que de celles de l'Afrique du Nord il y a entre 60 et 100 millions d'années.
Et pour le deuxième sujet du jour, on va partir au Brésil où des millions de moustiques génétiquement modifiés ont commencé à être lâchés par l'Institut Fiocruz avec pour but d'endiguer les épidémies de dengue, de Zika et de chikungunya.
Trois virus et un seul responsable, le moustique Aedes aegypti, un cousin du moustique tigre qui prolifère dans les centres urbains très précaires, notamment dans les eaux stagnantes des favelas de Rio. Trois virus qui ont fait des ravages au Brésil ces trois dernières années. Le pays a connu 91 000 cas de Zika rien que pour l'année 2014-2015. L'année où le virus est apparu, avec des conséquences très lourdes, on les connaît, la naissance de nourrissons microcéphales chez des mères infectées pendant la grossesse. La dengue aussi, après avoir été quasiment éradiquée dans les années 50, a fait un retour inquiétant dans le pays, notamment depuis la Coupe du Monde de 2014, quand l'afflux de touristes venus du monde entier a permis le retour d'une des quatre souches du virus de la dengue contre laquelle les Brésiliens n'étaient plus immunisés. Résultat, les cas de dengue ont augmenté de 550% en 2015. Les deux virus ont un peu régressé, mais il reste des menaces majeures, d'où ce programme baptisé Éliminer la dengue. Il a été développé par l'université de Monash en Australie. Une équipe de chercheurs internationaux y produit depuis 2009 des moustiques Aedes aegypti porteurs d'une bactérie, la Wolbachia, qui bloque leur capacité à transmettre les virus, comme l'explique le professeur Luciano Moreira. Il a travaillé plusieurs années avec l'équipe australienne et aujourd'hui c'est lui qui est en charge de l'application de ce programme au Brésil.
La Wolbachia est une bactérie très commune. On la retrouve chez près de 60% des insectes dans le monde, y compris chez les moustiques. Mais nous ne l'avions jamais trouvée chez Aedes aegypti. Lorsque nous avons commencé nos recherches en Australie en 2005, le but était donc de prendre la bactérie d'une drosophile, cette espèce de mouche qu'on appelle la mouche des fruits, de la purifier et de tenter de l'introduire dans les embryons d'Aedes aegypti. Ça a pris plus de 4 ans, mais nous avons finalement réussi. Et nous nous sommes donc retrouvés avec des Aedes aegypti porteurs de la Wolbachia. Et notre grande découverte, ça a été de comprendre que quand Aedes aegypti est porteur de la Wolbachia, celle-ci réduit beaucoup sa capacité à transmettre des virus comme la dengue, le Zika ou le chikungunya. Et ce qui est très intéressant, c'est que la Wolbachia est une bactérie intracellulaire qui se développe à l'intérieur des cellules. Donc, la mère transmet automatiquement la bactérie à ses œufs. Toute sa descendance sera porteuse de la bactérie. Mieux encore, la bactérie a vocation à s'étendre très vite à toute la population. Puisque si un mâle est infecté et qu'il rencontre une femelle non infectée, il la rend stérile. Et une femelle porteuse de la bactérie transmettra cette bactérie à tous ses œufs, même si le mâle qui l'a fécondé n'est pas infecté.
Et puis en France, le moustique tigre progresse de façon assez préoccupante, et notamment dans le Lot-et-Garonne.
Oui, il est arrivé d'Asie, par le sud-est de la France, et il se développe toujours plus vers le nord depuis 2004. Le Lot-et-Garonne est très touché depuis 2012. Il se trouve désormais classé en niveau 1 du plan national anti-dissémination des virus de chikungunya, dengue et Zika. Le département tente de mesurer la progression du moustique. Il a mis en place plusieurs pièges pondoirs, et surtout une plateforme en ligne flambant neuve, où chacun, vous êtes tous invités à le faire, peut signaler la présence d'un moustique tigre chez lui, photo à l'appui.
Et puis en Amazonie, près de 400 nouvelles espèces d'animaux et de plantes ont été découvertes.
Par le WWF, 216 plantes, 93 poissons, 32 amphibiens. WWF explique qu'elle en découvre une tous les deux jours dans la forêt et continue de les homologuer pour les protéger contre la dégradation de leur habitat par l'homme. L'homme risque de détruire des espèces avant même qu'on ait eu le temps de les découvrir, prévient WWF, qui alarme aussi sur la diminution de ses moyens puisque l'organisation environnementale a vu ses fonds réduire drastiquement et prévient que la qualité de ses prochains rapports s'en ressentira clairement.
Voilà, puis nous consacrerons ici même une émission complète à l'écosystème complexe et fragile de la forêt amazonienne d'ici une petite semaine, une dizaine de jours. Et pour conclure, comme chaque semaine, on ne perd pas les bonnes traditions par notre rubrique de science improbable, avec un tome inédit de la série de livres de George Martin, Game of Thrones, rédigé cette fois non plus par George Martin, mais par un ordinateur.
Vous l'entendez, ce générique, et si comme moi, vous attendez le dernier tome de la saga de J.R. Martin et la dernière saison du show qui en découle, vous allez être curieux de cette info puisque le développeur américain Zach Thout a développé une intelligence artificielle et l'a nourri avec les premiers tomes de la saga. Il l'a entraîné à imaginer la suite en utilisant un système de neurones récurrents qui fonctionne un peu par boucle et qui permet à cette intelligence artificielle de prendre en compte le contexte, d'avoir une bonne mémoire à court terme de tout ce qu'elle a lu, entre guillemets, mais pas à long terme. Alors résultat, les 5 premiers chapitres qui ont été publiés sur internet cette semaine donnent des phrases qui sont très correctes grammaticalement, ce qui est déjà plutôt bien, mais parfois beaucoup moins bonnes sur le sens. Et alors surtout, ce qui est intéressant, c'est la résolution de l'intrigue. Certains éléments paraissent cohérents. Alors comme on peut s'y attendre, Jamie assassine sa sœur, prévoit ce robot, la très vilaine Cersei à la fin. Il y a aussi Varys qui empoisonne Daenerys, et oui, la reine des dragons, laissant Jon Snow seul face au trône de fer, mais on a quand même beaucoup de bugs avec au moins 2 personnages morts depuis Belle Lurette qui font leur retour dans cette finale. Bref, en tout cas sur la fiction, on reste encore les meilleurs.